Alors, on parle de diversité, là, hein, de métissage, de diversité. Le trio de Quest of the Invisible, vous avez deux musiciens qui vous accompagnent, qui sont d'autres origines, hein, puisqu'il y a Leonardo Montana, le pianiste, qui est sud-américain, si je ne m'abuse.
Il est franco-brésilien.
Voilà. Et puis, Claude Tchanitchkian, qui a, avec un nom comme ça, il a des origines arméniennes, j'imagine.
Oui, il est franco-arménien.
Voilà. Alors, ce sont deux musiciens, par ailleurs, vous avez sollicité aussi pour deux autres ensembles, hein, puisque Leonardo Montana, il est dans Landscape of Eternity, et puis le bassiste Claude Tchanitchkian, il est dans Healing Rituals. Comment vous travaillez sur ces ensembles différents avec, vous attendez autre chose d'eux, ou au contraire, vous voulez qu'ils restent ce qu'ils sont, mais qu'ils apportent leur couleur à l'autre ensemble ?
Alors déjà, il y a une histoire humaine, c'est-à-dire que Leonardo, comme Claude, donc Leonardo, on a commencé à jouer ensemble en 2014, et c'est pour ça que j'ai aussi monté Quest avec lui, c'est parce que j'étais très admirative et que j'aimais beaucoup beaucoup comme il joue et que ça me faisait du bien de jouer avec lui. Et puis au départ, Quest, on était en duo, et puis en fait, il manquait quelqu'un, et c'était Claude. Donc, on a travaillé beaucoup sur certaines directions, sur le silence, sur le vide. C'est des choses qui n'étaient pas évidentes, peut-être, pour eux, et sur lesquelles, j'ai donné des directions aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on essaye de dépouiller, d'aller à l'essentiel, d'être dans un rapport spirituel et pas performatif dans notre musique. Et du coup, tout ce travail-là, j'avais envie que on puisse en profiter dans la suite des répertoires, dans la suite de mon chemin musical. Donc il y a une raison à la fois humaine, parce que ce sont devenus des amis, c'est des gens que j'aime beaucoup et qui constituent ma famille musicale, de toute évidence. Là, je pars demain avec Claude en Italie, on va passer des super moments ensemble. Avec Claude et Léo, on a joué partout dans le monde, on a passé des semaines ensemble sur la route, on sait exactement ce qu'on ressent, on sait ce qu'on peut se demander, on sait comment on peut compter les uns sur les autres ou pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des rapports hyper puissants, hyper forts, ce qu'on vit ensemble sur la route. Et on a joué partout avec ce trio. On a joué aux États-Unis, on a joué en Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Hollande, en Belgique, en Italie, en France, au Canada. Enfin, je veux dire, il y a un truc hyper fort entre nous, donc humainement, et aussi de toute évidence musicalement, qui fait que j'avais pas envie de mettre un terme à ce compagnonnage, vu qu'on avait déjà traversé plein d'étapes musicales ensemble et plein d'étapes humaines, et que je savais que je pouvais compter sur eux. Donc j'avais envie de continuer à m'entourer de leur présence à la fois humaine et musicale dans les projets qui ont suivi Quest of the Invisible. Donc effectivement, j'ai invité Claude dans Healing et Léo récemment dans Landscapes.
Oui, donc vous l'évoquez, il y a beaucoup, beaucoup de concerts. Alors, je me posais la question, c'est comment le trio, comment, en quoi la musique évolue au fil des concerts ? Parce que l'album, maintenant, il date de 2019, je crois. Donc, ça fait 6 ans, bientôt, ou peut-être déjà 6 ans. Et la musique, est-ce qu'elle a... Vous repérez qu'elle a évolué ou pas ?
En 2017, donc ça fait 8 ans qu'on joue cette musique, c'est génial en fait,
vous
c'est magnifique.
Avant.
C'est
moi, que je parle de l'album simplement.
Comment ?
Là, je disais l'album est de 2019, lui.
Oui. Mais donc du coup, en fait, ça fait 8 ans qu'on joue ensemble cette musique, et c'est vrai que ce qui est magnifique, quand on a la chance de pouvoir jouer un répertoire aussi longtemps, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on le rejoue, c'est comme si on rentrait à la maison, en fait. Il y a un truc, il y a une intimité avec le répertoire qui est sublime. Et on est comme dans un cocon, en fait. C'est hyper précieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque Comme je le disais, capitaliste, où on va toujours demander de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et en fait, c'est super hein, d'écrire des nouveaux répertoires, mais quand on a la chance de pouvoir jouer le même répertoire pendant 8 ans, c'est aussi assez magnifique, la relation qui se crée à la musique et entre les musiciens. Tout à l'heure, on parlait de John Coltrane. John Coltrane, il a joué à My Favorite Things pendant je sais pas combien d'années.
Pendant un certain nombre d'années, oui.
Voilà, et puis il a joué avec les mêmes musiciens pendant des années. Il a joué avec Alvin, il a joué avec McCoy pendant des années, des années. Et en fait, il y a une intimité, il y a une complicité, il y a une respiration commune qui émerge, qui prend forme et qui ne peut pas s'inventer en dehors du temps. Et le temps, ça ne s'achète pas. Le temps, ça se vit, ça se parcourt, ça se traverse, ça s'incarne. C'est pas un truc qu'on peut comme ça, donc la commande doit, parce que c'est super fun de mettre des musiciens qui n'ont jamais joué ensemble, qui vont jouer ensemble, alors tout le monde est content. Oh waouh, ils n'ont jamais joué ensemble, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Bah oui, mais deux musiciens qui jouent ensemble pour la première fois, c'est jamais comme deux musiciens qui jouent ensemble depuis 10 ans.
Oui, c'est voilà. Clair. Alors, question subsidiaire. Je constatais que sur beaucoup de vos albums, sinon la totalité, il y a une importance accordée à la calligraphie. Alors, moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Hein, et puis, en France, on connaît la calligraphie arabe. C'est répandu avec des gens comme Hassan Massoudi ou Assaad Metoui. Quelle est l'importance pour vous ? J'imagine que c'est un peu votre volonté. Aussi, quelle est l'importance pour vous de cette écriture ?
En fait, moi, la calligraphie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très beau. J'aime à la fois l'abstraction qu'elle représente et la trace de l'inspiration, la trace du souffle, ouais. En fait. Mmh. Et il y a des calligraphes plus ou moins spirituels, plus ou moins mystiques. Donc là, je vais parler de Hassan Massoudi, parce que c'est... Donc j'ai fait 3 pochettes d'albums qu'il a signées. Hassan Massoudi... Alors il y a des calligraphes qui sont plus des graphes, qui sont plus des graphistes, qui vont penser leur calligraphie au millimètre, qui vont la prévoir, qui vont l'anticiper, qui vont la concevoir en amont comme un architecte. Et là, c'est un travail complètement différent, à mon sens, d'un point de vue spirituel. Et il y a les calligraphes comme Hassan, où il a parfois une idée de là où il va, de la direction dans laquelle il va, mais où ce que je trouve sublime, c'est qu'il se laisse traverser par le divin, il se laisse traverser par l'inspiration, il se laisse traverser par le souffle, et sa main est mue. Voilà, elle est mue par cette inspiration-là.
C'est un autre calligraphe.
Que c'est quelque chose.
Oui, pardon, je disais, quand vous parlez de sa main, c'est toute l'importance du geste dans la calligraphie. Et puis un autre calligraphe disait, ma main qui est beaucoup plus intelligente que je ne le serai jamais.
Et je me dis, voilà, en fait, la question du geste, c'est aussi la question du rapport à Dieu. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand vous parlez avec Hassan, qui est quand même quelqu'un de très mystique, c'est pas lui qui mène sa main. C'est pas lui qui mène son geste. Et c'est vrai qu'il y a des fois, moi, quand je suis en train d'improviser, alors, il y a des fois, j'improvise, je construis mon improvisation comme un architecte, je sais exactement où je vais, par quelles étapes je vais passer et tout. Et puis il y a parfois des improvisations où à la fin de l'impro, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai juste été le vecteur de quelque chose qui me traverse. Et j'ai pas du tout été... je suis dans un espèce d'état de modifié de conscience, en fait, comme Hassan ou comme d'autres gens, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Hassan, parce qu'il a un rapport très spirituel, très mystique à sa pratique artistique, ouais.
Voilà. Non, puisque ce que vous disiez, c'est un petit peu ce que je voulais suggérer. C'est que pour moi, il y a un parallèle entre le geste de la calligraphie et l'improvisation en musique. Il y a
oui,
quelque chose de très prévu et quelque chose de totalement imprévisible en même temps.
Oui, voilà, ça dépend. Ça dépend de qui improvise, ça dépend de qui fait de la calligraphie, encore une fois. Il n'y a pas de vérité comme ça, je trouve, sur les pratiques artistiques. Il n'y a que des directions que les gens prennent ou pas, en fait, parce qu'elles correspondent à ce qu'ils ont besoin de faire dans leur vie. Hein.
Voilà. Et puis l'importance de l'instant et de la présence. Merci beaucoup, Naïssam Jalal. Et puis nous encourageons nos auditeurs à être présents.
Mais moi aussi, je les encourage.
Hein, le 5 novembre au JAM à Montpellier. Merci beaucoup. Et puis bonne tournée à vous, parce que vous avez beaucoup de concerts avant celui de Montpellier. Et il y en a beaucoup après.
Oui, merci. Merci beaucoup.